Si vous êtes en visite, sachez que nous sommes en train de parcourir lentement l'évangile de Marc. Il y a 4 évangiles, dont l'évangile de Marc qui nous donne la vie de Jésus. Et donc nous sommes au chapitre 11 et on avance section par section. Et aujourd'hui nous sommes dans Marc chapitre 11 à partir du verset 27. Un message que j'ai intitulé « L'autorité de Jésus et la parabole des vignerons ». Et j'aimerais lire Marc 11 à partir du verset 27 pour nous mettre dans le bain. Merci Nabil. Je lis à partir du verset 27. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: je vous adresse aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux: si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. On va continuer. Chapitre 12, verset 1. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis la ferma à des vignerons et quitta leur pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant: ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux: voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittèrent et s'en allèrent. Bien que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Parlons un petit peu du contexte. Vous vous rappelez que nous sommes dans la dernière semaine de la vie de Jésus. Lundi, Jésus rentre dans Jérusalem sur un âne, là où il est acclamé par la foule. Vous vous rappelez qu'il se rend au temple et au verset 11 du chapitre 11, il est dit qu'il contemple le temple. Verset 11, il est dit: Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Mardi, il retourne à Jérusalem. En y allant, il maudit le figuier, puis se rend de nouveau au temple. Il chasse les vendeurs, puis se rentre à Béthanie. Mercredi, il retourne à Jérusalem et va au temple. Et là, il enseigne. Donc au verset 11, nous apprenons qu'il va au temple pour la première fois après avoir été acclamé par la foule. Et il est dit lorsqu'il avait tout considéré. Jésus a regardé dans le temple. Alors, en guise de révision, qu'est-ce qu'il a vu? Si vous étiez là la dernière fois qu'on a pris ce texte, vous vous rappelez, juste je révise. Premièrement, il a vu la majesté du temple. On se rappelle que dans Exode, Dieu avait voulu qu'il y ait un tabernacle, ensuite un temple, parce que c'était là où Dieu allait rencontrer son peuple. Et dans le livre d'Exode, surtout lorsque le peuple voyageait pour entrer en terre promise, on voyait souvent la colonne de feu et la colonne du nuage. C'était là où Dieu rencontrait son peuple. Lorsque Jésus rentre dans le temple à Jérusalem, c'était le temple, le nouveau temple quelque part, qui était reconstruit par Hérode. On avait regardé les photos la dernière fois, je fais que de réviser. Et vous vous rappelez que dans le temple, il y avait deux choses. Il y avait premièrement le temple lui-même, cette petite bâtisse où il y avait le lieu saint et le lieu qui s'appelle le Saint des Saints. Ensuite, tout entouré d'une vaste esplanade. Et la plus grande esplanade autour de ce temple était la cour des païens, dans laquelle tous, juifs et non-juifs, pouvaient venir et accéder à cette partie du temple. À l'intérieur de cette cour, il y avait d'autres paramètres interdits aux païens. Alors, quel était le but du temple ? Eh bien, premièrement, Jésus le dit au verset 17. Il enseignait, disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?» Le premier but, c'était que c'était un endroit, puisque Dieu était présent là où il y avait le temple, eh bien, on venait pour adorer Dieu. C'était un endroit où ceux qui connaissaient le seul et unique vrai Dieu pouvaient venir et l'adorer. Mais on voit dans ce même verset, regardez ce qu'il dit dans le verset 17, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. » Pas que pour les juifs. C'est pour ça qu'il y avait la cour des païens. Les païens pouvaient venir et là, être exposés au vrai, seul et unique Dieu. Donc il y avait un but, si je peux le dire ainsi, d'évangélisation dans ce temple ou avec ce temple. Donc Jésus, en regardant, voyait la majesté du temple. Deuxièmement, il voyait les sacrifices du temple. Vous rappelez que le pécheur rentrait dans le temple, il se trouvait face à l'autel des holocaustes, et là on amenait sa victime, cet animal, il se faisait égorger, le sang était répandu, faisant l'expiation de ses fautes. Le salaire du péché c'est la mort, donc l'animal était tué en substitut de l'homme qui lui aurait dû mourir pour son péché. Donc cet animal égorgé prenait symboliquement la place du pécheur, qui aurait dû être mis à mort. Et donc Dieu, dans l'Ancien Testament, a donné ce symbole, ces animaux, qui étaient un substitut, mais toujours répété. Et on sait que ces animaux ne pouvaient pas être un substitut parfait, nous dit Hébreux, on a déjà regardé tout ça, Hébreux 9, Hébreux 10, Hébreux 11. Non, c'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, dans Jean 1, 29, en voyant Jésus, vous vous rappelez ? Il vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tous ces animaux pointaient à l'agneau parfait de Dieu qui allait venir un jour, le Messie, lui, mourir une fois pour toutes pour le péché de tous. Donc Jésus voyait ces sacrifices, ces animaux. Troisièmement, il voyait les changeurs d'argent. Ça, on l'avait vu au verset 15. Il arrivait à Jérusalem. Jésus entrait dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. On avait vu, ces changeurs de monnaie avaient la fonction de convertir l'argent acceptable en argent, enfin l'argent inacceptable en argent acceptable pour les offrandes et pour acheter ces sacrifices, ces animaux. Mais, comme on l'a vu, une arnaque s'était installée dans le temple. Et ces gens, par leur taux exorbitant, et par d'autres moyens, volaient en fait de l'argent aux gens qui venaient innocemment acheter un animal pour l'offrir selon la loi de Dieu. Jésus a aussi vu les vendeurs de pigeons, de brebis et de bœufs. On voit ça au verset 15 et aussi dans Jean 2, 14. Il y avait un deuxième commerce, donc il y avait ceux qui changeaient l'argent parce que les gens venaient de partout avec leur argent puis ils voulaient le changer en argent local. Mais il y avait ces vendeurs de pigeons, de brebis, et de bœufs. Donc si tu venais de loin, tu n'allais pas amener ton troupeau avec toi, ou tes brebis, ou tout ça, tu dis « bon, ben, je vais en acheter un quand j'arrive sur place ». Ce n'était pas un mal, nécessairement, de faire cela. Mais la loi, et ça on l'a vu la dernière fois, exigeait un animal sans tache. Donc un commerce s'était installé. Parce qu'il y avait des inspecteurs d'animaux pour être sûr que l'animal était approprié pour le sacrifice. Et bien sûr, ils acceptaient que les animaux de leurs amis vendeurs. Eh ouais, arnaque. Ah, le cœur de l'homme, c'est horrible. Et cinquième chose que Jésus a vue, c'est les commerçants utiliser le temple comme un raccourci pour se rendre à Jérusalem. Verset 16, il dit « Ne laissez personne transporter aucun objet à travers le temple. » Ben oui, il y a des gens qui se sont dit « C'est super, et j'ai envie d'aller là-bas. » Au lieu de faire tout le tour du temple, ben, je traverse. Donc au lieu d'aller au temple pour adorer Dieu, ils y allaient parce que c'était un raccourci commercial pour aller plus vite faire du business à Jérusalem. Alors Jésus voit tout ça. Deuxième chose, la réaction de Jésus. La réaction de Jésus, ben, au verset 15 et 16, tout ça c'est en guise d'introduction, mais ensuite on va bien comprendre la suite. Bien, il entre dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il faut juste simplement s'arrêter et réfléchir à ça. Écouter les pièces, les animaux, les gens. Parce que vous avez rappelé les photos, c'était immense. Il y avait des milliers de gens dans cette cour. Et Jean 2 nous dit qu'il a à un moment donné fait un fouet. Je vous ai montré un fouet la dernière fois, vous vous rappelez ? Je me suis fouetté moi-même. Ça, c'était pas le lead. C'était pas ce que j'essayais de faire, d'accord ? Mais... Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire ce qui se passait. Jésus avec un fouet qui chasse tout le monde de cet endroit. Alors quel est le résultat ? Verset 18. Peut-être au verset 17. Jésus fait tout ça, il chasse tout ça. Ensuite, n'est-il pas écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs ?» Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchaient les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Ils sont tellement en colère qu'ils décident qu'ils veulent tout simplement tuer Jésus. Mais Jésus, verset 19, quitte la ville. Nous avons déjà examiné les autres versets. Maintenant, c'est la suite au verset 27, notre texte d'aujourd'hui. Ça, c'est le contexte. Ça, c'est le contexte. On arrive au verset 27, la question des chefs religieux. Il se rendit de nouveau à Jérusalem. Donc, après avoir fait le ménage dans le temple, il y retourne. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui. Ben oui, il est connu maintenant. Il y a Jésus qui revient. Alors, qui sont ces gens ? Ben, les principaux sacrificateurs, selon Luc 3, 2, sont Caïphe et Anne. Et ils servèrent en même temps pendant quelques années. Les scribes, c'était les érudits de la loi. Les anciens, c'était tous les autres chefs religieux, pharisiens, Matthieu 21, 45, sadducéens, hérodiens, zélotes, esséniens. C'était ces partis politico-religieux qui, vous savez, se disputaient sans cesse par rapport à des détails théologiques. Mais là, ils étaient, pour une fois, unis autour de leur opposition contre Jésus. Donc, ce groupe impressionnant de personnes voit Jésus dans le temple le lendemain et ils viennent le voir. Ben oui, il venait de faire le ménage le jour avant, alors imaginez, il revient. Et lui pose cette question au verset 28, « Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Alors de quelle action parle-t-il lorsqu'il parle de ces choses ? Eh bien ces choses, c'est ce qui s'était passé le jour avant. Non, mais tu te prends pour qui? Par quelle autorité est-ce que tu es venu chasser tout le monde du temple, comme tu l'as fait hier? Écoutez, moi, je comprends la question. Imaginez que, je crois que c'est le samedi matin, le marché au Mollard, non? Si vous allez à la place du Mollard, samedi matin, et vous commencez à renverser les tables, d'accord? La table du fleuriste, schlac! La table du boucher, si un boucher, schlac! La table du fromagier, fouah! La table du fruitier, fouah! Vous commencez à renverser toutes les tables sur la place du marché. Qu'est-ce qui va se passer, vous croyez? Que pensez-vous va arriver? Ben, quelqu'un va venir, certainement la police, vous dire: excusez-moi, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vous répondez: je renverse les tables. Et il va vous dire: mais par quelle autorité est-ce que vous faites ça? Pourquoi est-ce que vous renversez les tables? C'est une question légitime et logique. Qui vous a demandé de renverser les tables? Par quelle autorité? N'oublions pas non plus que Jésus n'était pas officiellement rabbin, donc il n'avait aucun statut officiel. C'était juste un gars, une sorte de fanatique religieux. Donc ils ne comprennent pas qui lui avait donné cette autorité. On avait quand même vu la dernière fois, et quelqu'un est venu me voir après le culte, lorsqu'on a regardé comment il a fait pour chasser, parce que c'était immense, c'était des milliers de gens dans cette cour, il y avait certainement un miracle, une autorité, Dieu en lui, un Dieu incarné, qui a permis que ces gens partent, sans qu'ils soient arrêtés par la police du temple. Il y avait vraiment un incident ce jour-là au temple. Donc on lui demande: mais par quelle autorité est-ce que tu fais ces choses? Bien, la réponse de Jésus est au verset 29. Enfin, oui, 29, Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Et ensuite, il pose sa question: le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Et il redit une deuxième fois: répondez-moi. Alors, notons que Jésus est le champion des contre-questions. En fait, il ne répond pas à leurs questions. Il répond à leurs questions par une question. Très malin, très astucieux. En fait, il répond aussi par une question qui, d'emblée, semble sans lien et presque déplacée. On dit: mais attends, voir, qu'est-ce qu'il vient faire ici, Jean-Baptiste? Ça n'a rien à voir, il n'est pas là, il est mort. Une question sur le baptême de Jean-Baptiste. Alors, qu'en est-il donc de cette contre-question? Ben, la question, elle est simple. Le baptême de Jean vient-il du ciel ou des hommes? Alors, lorsque Jésus parle du baptême de Jean, c'est une manière de décrire le ministère global de Jean-Baptiste. Alors, allez avec moi au chapitre 1. C'est important de le lire, c'est assez intéressant, d'accord? Marc 1 et le verset 1 à 8. Voici le ministère de Jean-Baptiste. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, voici le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alors Jean-Baptiste, c'était qui? C'était un prophète vétérotestamentaire. Il était, ah oui, il était encore dans l'Ancien Testament quelque part. Il était admiré, aimé par le peuple. C'est lui qui a été choisi par Dieu pour préparer le peuple pour l'arrivée du Messie. C'est lui en fait qui a baptisé Jésus dans l'initiation de son ministère. Son message, son style, sa manière de vivre a eu un immense impact sur Israël. Des milliers de personnes, on vient de le lire, venaient des contrées de Jérusalem des milliers de personnes venaient l'écouter, venaient confesser leurs péchés et venaient se faire baptiser par lui dans le Jourdain. Sa fin est tristement célèbre. Un jour, il a osé confronter Hérode pour son péché d'adultère. Ça lui a coûté la vie, on l'a décapité. Et on a porté la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Un homme courageux, limpide, droit. Mais pourquoi cette question au chef religieux? Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'autorité de Jésus? Ah, ben c'est une question ingénieuse de la part de Jésus, et nous allons voir pourquoi. Il faut voir la réponse des chefs religieux. Maintenant, on est de retour au chapitre 11, verset 31. Donc Jésus leur pose la question, le baptême de Jean, verset 30, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Alors verset 31, ils raisonnèrent entre eux, « Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, ils craignaient le peuple, car tous tenaient réellement Jean comme un prophète ou pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Ben oui, s'ils répondent comme quoi le ministère de Jean-Baptiste est du ciel, oui, s'ils disent « Oui, nous pensons que Dieu a envoyé Jean-Baptiste, qu'il était là, envoyé par Dieu. » Alors cela veut dire que les chefs religieux auraient dû reconnaître Jean-Baptiste comme un prophète venu de Dieu, et donc ça veut dire qu'ils auraient dû croire en son message. Et quel fut son message ? Repentez-vous de votre péché et acceptez le Messie auquel je pointe, le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus, l'agneau parfait de Dieu qui ôte le péché du monde. Ben oui, c'est logique. S'ils disent « Ah, ben nous croyons que Jean vient du ciel », ben ils sont obligés d'accepter Jésus comme le Messie. Mais ça, ils n'étaient pas trop à le faire parce que juste avant, ils veulent le tuer. Donc là, il y a un gros problème. Alors, s'ils répondent comme quoi le ministère de Jean-Baptiste est des hommes, non, il n'est pas de Dieu, c'est juste un... pas un prophète de Dieu, mais qui dit une fraude. C'est un... Jean-Baptiste était un prophète autoproclamé. S'ils disent ça, ah, alors ceci, alors, les discréditerait aux yeux du peuple, puisque le peuple n'avait aucun doute sur l'identité de Jean-Baptiste. Pour le peuple, il était... le prophète de Dieu, qui pointait vers le Messie. Et donc, les leaders juifs se mettraient le peuple contre eux. Écoutez, Jésus, il est ingénieux. Bien sûr, il est Dieu incarné, ça aide, d'accord? Mais cette contre-question... qui sort comme ça, c'est génial. Vous n'aimeriez pas être aussi, perspicace d'apporter la bonne réponse quand quelqu'un vous piège avec une sorte de question, dit « Aïe, aïe, je ne sais pas quoi répondre, s'il te plaît. Hein, » vous êtes là, souriant, mais en intérieur de vous, vous êtes « S'il te plaît, Dieu, je dis quoi, j'ai aucune idée quoi dire, je ne sais pas quoi dire. » Vous avez déjà été là? Oui? Moi, oui, souvent. Lui, il avait toujours la bonne réponse. C'est génial. Verset 33, ils répondent, « Ben nous ne savons. » Alors que conclure de leur réponse? C'est une réponse lâche, voilà ce que c'est. Parce qu'elle montre qu'ils n'ont pas le courage d'affirmer clairement leur conclusion. Ils répondent lâchement car ils ne veulent pas d'ennui avec le peuple. Ils n'osent pas articuler ce qu'ils croient vraiment. Comme quoi Jean-Baptiste et Jésus étaient des fraudes. Voilà ce qu'ils croyaient vraiment. Alors ils disent, on ne sait pas. Bien sûr qu'ils savaient, c'est un mensonge. Ils ont menti pur et simplement là. Alors Jésus répond à leur question initiale au verset 28, par quelle autorité fais-tu ces choses? Mais il répond, à la fin du verset 33, Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Pourquoi pas? Parce que Jésus n'a qu'une réponse à donner. du ciel. Ce qui est triste, c'est que Jésus sait déjà. Il sait déjà qu'ils ne vont pas le croire. Dans Marc 10, 32, ils étaient en chemin, montaient à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Jésus le prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, Jésus dit, c'est une prophétie par rapport à sa mort. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours plus tard, après, il ressuscitera. Ça doit être très dur de vivre avec cette précision de connaissance par rapport à son avenir. C'est pour ça qu'il ne répond pas. Ça sert à quoi ? Alors, ça pourrait être la fin de l'histoire. Puis j'étais tenté, quand j'étudiais ce texte, de m'arrêter là. Voilà, l'autorité de Jésus est claire, elle est évidente, il n'y a pas besoin de répondre. Puis ensuite, j'ai lu le premier verset du chapitre 12 qui dit « Jésus se mit ensuite ». Et ça veut dire quoi, ensuite ? Ça veut dire « ensuite ». Donc, c'est lié. Oui, mais c'est vrai, en fait. C'est lié. Donc, c'est dommage, parce que vous savez que les divisions dans la Bible ne sont pas inspirées. Ça, c'est quelqu'un qui les a mis au Moyen-Âge pour nous rendre la vie plus facile, pour qu'on puisse trouver les textes ensemble. Mais en fait, moi, je pense que c'est une très mauvaise séparation. Ce fidèle gars qui voulait nous aider, nous a aidés, mais là, il ne nous a pas aidés. Parce qu'en fait, on est tenté d'arrêter là. Mais en fait, on doit aller jusqu'au verset 12 pour comprendre la suite de l'histoire ici. Donc, c'est la parabole du vigneron. Et là, ça devient vraiment intéressant, mes amis. Le verset 1, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Donc le mot « ensuite » lit ce qui va se dire maintenant avec ce qui vient de se dire. Jésus vient de confondre les chefs religieux par sa question sur Jean-Baptiste. Ceux-ci choisissent de ne pas répondre à sa question. Jésus en profite maintenant, écoutez bien, il veut les accuser par rapport à leur incrédulité à son égard. Là, il prend le couteau et schlac, il va vraiment droit au cœur de ces hommes. Il va leur montrer qu'ils ne sont pas différents que la plupart des leaders religieux dans l'histoire d'Israël, qui ont eux systématiquement rejeté les messagers envoyés par Dieu, dont Jean-Baptiste, et qui a culminé avec Jésus-Christ. Regardez, c'est... Alors, notez juste un petit détail. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Ce mot-là est au pluriel. Donc, il a évoqué plusieurs paraboles. Marc a choisi de nous en donner qu'une. Donc, on va regarder qu'une, celle que Marc nous a donnée, puisque nous sommes dans Marc. Donc, regardez le verset 1b qui commence. Un homme planta une vigne. Il entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Alors, ça, c'est le détail de la construction d'une vigne. Alors, il faut savoir que la vigne était un symbole, et ça c'est quand même assez important, un symbole fréquent utilisé pour la nation d'Israël. Dans le psaume 80, je vais vous lire, dans le psaume 80, verset 9 par exemple, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée », parlant de son peuple, bien sûr. Et verset 15, Dieu des armées revient donc, regarde du haut des cieux et voit, considère cette vigne. Bref, c'est une image de son peuple. Et ça va devenir très clair. Donc un homme, c'est une parabole aussi, j'ai oublié de dire qu'une parabole, c'est une histoire inventée pour illustrer un propos précis. Donc ce qu'on va lire maintenant, c'est inventé comme histoire, mais avec une application très précise. Donc, un homme plante une vigne. Donc, il s'agit de son peuple. Dieu plante son peuple Israël. Ensuite, il est dit qu'il afferma des vignerons. Alors, ces vignerons, on va le voir tout de suite, sont les leaders religieux. Donc, il ordonne, il quitte le pays. Verset 2. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisis de lui, le battirent et le renvoyèrent à vide. À un moment donné, le propriétaire, voyant que la récolte ou les vendanges sont prêtes, eh bien, il veut une part de la récolte, c'était le deal. Donc, il envoie un premier serviteur pour recevoir cette part du produit de la vigne. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Il est battu et renvoyé sans rien. Imaginons la réaction du propriétaire. Non, mais ils sont gonflés. Verset 4. Il envoyait de nouveau vers eux un autre serviteur. Pas le même, d'accord? Il n'a pas envie de se refaire tabasser, apparemment. Donc, ils envoient un autre serviteur et ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Là, il le frappe, il l'insulte. Verset 5. Il envoya un troisième qu'ils tuèrent. Alors là, ça devient plus grave. Je me dis, mais la patience du propriétaire. Regardez la suite. Puis plusieurs autres, il envoya qu'ils battirent et tuèrent. Mais c'est une patience inimaginable. Deux battus, un tué, il en renvoie plusieurs, encore battu, encore tué. Alors, qui sont ces serviteurs? Alors, on le sait parce que, je vais vous donner la réponse au verset 12. Hein. Ils cherchaient à le saisir de lui, mais ils le craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ben oui. Alors, ces serviteurs représentent les prophètes que Dieu a envoyés tout au long de leur histoire afin de récolter le fruit de la repentance de leur justice. Donc les serviteurs du maître, ce sont les prophètes. Il envoie les prophètes. Mais ces prophètes furent abusés, blessés et tués. Et ça, il n'y a qu'à lire la Bible pour le savoir. Tous les prophètes, presque systématiquement, ont été rejetés. Je vous donne quelques exemples. Jérémie 7, verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou et ils ont fait le mal plus que leur père. Chapitre 25 de Jérémie encore. Verset 4. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille. Ils ont dit, revenez chacun à votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité, etc. Mais ils les ont pas écoutés. Alors écoutez, là c'est encore plus fort. Jésus parle directement à ces hommes dans Matthieu 23, au verset 33. Jésus dit ceci. C'est Jésus qui parle aux leaders religieux. Serpent, race de vipère. Quand vous commencez comme ça, d'habitude, ça finit assez mal, d'accord? Là, c'est vraiment du direct, alors je répète. Serpent, race de vipère. Matthieu 23, 33. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Il dit, vous, leaders religieux, comment est-ce que vous allez échapper l'enfer? C'est pourquoi? Voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes, vous tuez et vous crucifiez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel et jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bacharie, que vous avez tué entre le temple de l'autel. Je vous dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Retour à la parabole. Donc ces serviteurs, ce sont les prophètes que Dieu a envoyés. Et on le sait parce que maintenant le verset 6 est tellement clair. Et il envoya encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais écoutez, quelle patience! Quelle patience! Maintenant, il envoie son fils bien-aimé. Et le fils bien-aimé, c'est une désignation de Jésus tout le long du Nouveau Testament, dans chapitre 1 et le verset 11, chapitre 9 et le verset 7, par exemple. Il se dit, bon, ben, de toute façon, mes serviteurs, ils les ont pas respectés, mais mon fils, lui, ils vont le respecter. Verset 7, mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. En Israël, une loi disait qu'un terrain pouvait être réclamé par le premier qui le demandait après une certaine période de temps, suite au décès de tous les héritiers légaux. Et ça, on le trouve dans Mishnah Baba Batra 3,3. C'est un livre, d'accord? Bref, ils se disent, si on tue le fils, on deviendra héritier et on pourra faire ce qu'on veut. Alors c'est exactement ce qu'ils font. Ils le tuent. Et il est dit qu'il est jeté hors de la vigne. Certains voient ici une référence à Jérusalem, comme quoi Jésus a été crucifié à l'extérieur de Jérusalem. Verset 9. Jésus parle, hein. Il raconte cette parabole. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Alors c'est intéressant, Jésus est le maître de poser des questions. Il veut que ceux qui l'écoutent, ces leaders religieux, participent à la réponse. Donc il repose une question. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Quelle action le propriétaire devrait-il prendre dans ce cas, après plusieurs meurtres, dont celui de son propre fils par les vignerons? Vous allez voir, c'est logique, c'est gros comme un éléphant ce qu'il devrait faire. Alors, ici, Jésus répond, il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Ce qui est intéressant, c'est dans le passage parallèle, dans Matthieu 21, 40 à 41, c'est les leaders juifs qui répondent à la question de Jésus. Ils lui répondirent, nous dit Matthieu, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons et lui en donneront le produit au temps de la récolte. Alors c'est très intéressant. Les leaders juifs répondent et ils répondent juste. Ils n'ont pas encore compris que la parabole était une parabole qui leur était adressée à eux, pour les accuser eux. Pour eux, c'était une belle histoire. Ils n'ont pas du tout vu que c'était un avertissement contre eux. On sait dans le chapitre 11 de Marc et le verset 18 qu'ils complotaient déjà le meurtre de Jésus. Donc Jésus était en train de leur montrer qu'ils étaient des assassins. C'était prémédité. Et ce que je trouve remarquable ici, dans l'époque dans laquelle on vit, regardez le verset 9. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Jésus et ses ennemis répondent de la même manière. Il viendra et fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Mes amis, c'est très intéressant. C'est une des justifications de la peine de mort. Jésus et les ennemis de Jésus croyaient à la peine de mort. C'était juste dans ce cas-là. Absolument juste. Ça, je ferme la petite parenthèse. Là, il faut aller à Genèse 9, 5 à 6 pour voir la légitimité ancien testamentaire de la peine de mort. Donc, il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Oui. Aux païens. Aux païens. Transfert de privilèges aux païens. Wow. Et comme Jésus fait souvent, il scelle ce qu'il dit avec la parole de Dieu. Il cite les Écritures ici. Il cite le psaume 118, 22 à 23, texto. N'avez-vous pas lu cette parabole des Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Alors de quoi, qu'est-ce que c'est cette pierre? Acte 4, 11 et 12 nous explique clairement le sens de cette pierre. Jésus, acte 4, 11, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a de sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette pierre est clairement une référence à Jésus. Jésus cite le psaume 118, versets 22 à 23, comme une prophétie accomplie de lui. C'est lui, cette pierre. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. C'est un prodige à nos yeux. Lors d'une construction, la pierre principale de l'angle, c'est la pierre la plus importante de laquelle toute la bâtisse est calquée. Et là, on apprend que c'est la volonté de Dieu. C'est intéressant. C'est là où nous restons très humbles devant les desseins de Dieu. Quel renvers inimaginable pour ceux qui ont cru se débarrasser une fois pour toutes du Fils. Dieu, dans sa providence, transforme une tragédie, le rejet et la mort et la crucifixion de Jésus, dans une situation de gloire extrême. Les tentatives humaines et sataniques d'arrêter le plan de Dieu deviennent le moyen et le plan de Dieu pour sauver l'humanité. C'est quand même incroyable. Ils ont commis un meurtre, mais la mort de Jésus était nécessaire pour que nous soyons sauvés. Est-ce que vous comprenez? Moi pas. Là, je suis tout petit devant la providence et la majesté et la grandeur de Dieu. Et oui, et la mort et la résurrection du Fils devient, verset 11, un prodige à nos yeux, l'accomplissement parfait des desseins de Dieu. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il cite les Écritures, mes amis, verset 12, ils cherchent à le saisir. Alors là, ils sont fous de rage. Pourquoi? Ils craignaient la foule. Mais regardez, ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. C'était comme un couteau dans le cœur. Là, ils ont réalisé, waouh, il vient de nous dévoiler comme des assassins et des meurtriers prémédités. Et là, ils ont certainement compris aussi quel était leur juste sort. Mais puisqu'il craignait la foule, ah, ces plaiseurs d'hommes, ils le quittèrent et s'en allèrent. Alors, comment on conclut? Comment on conclut? Allez, plusieurs choses. Premièrement, les juifs religieux comprennent la parabole. Peut-être c'est un exemple pour nous, lorsqu'on annonce l'évangile, parfois d'utiliser des illustrations. La semaine dernière, j'ai prêché un message des deux questions, hein, qui est un message qui n'est pas de moi, c'est un message par évangélisation explosion. Mais plusieurs m'ont dit, ce qui vraiment ils aiment avec ce message, c'est les illustrations. Elles sont tellement claires. Donc c'est bien d'avoir une méthode d'évangélisation comme celle-ci qu'on a fait la semaine dernière, juste pour ces illustrations. Et les gens, ils aiment entendre une histoire. Hein. Là, ils étaient en plein dedans. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que l'histoire était dirigée pour eux. Deuxièmement, ce récit nous confirme le triste constat de la suite de l'histoire. Le sort de Jésus est clair. Il va droit vers la mort et tout le monde le savait, lui inclus. « Jésus, en plus, troisièmement, vient de répondre à la question initiale des leaders au verset 28 quant à son autorité. Quelle était son autorité ? L'autorité, elle devenait d'où ? Du vigneron ? Enfin non, du propriétaire de la vigne, c'est ce que j'essaie de dire. Il était envoyé, c'était le fils envoyé du propriétaire de la vigne. Et en plus, il dit que tous les prophètes de l'Ancien Testament et Jean-Baptiste pointaient à lui. Là, ils l'ont compris. Ben oui, il dit, écoutez, mon autorité, c'est que je suis le Fils de Dieu. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui pointait à ce jour. Psaume 118 à l'appui. Et vous allez me tuer. Quatrièmement, ce récit nous révèle le triste sort de certains des leaders religieux. Leur condamnation claire et nette, leur peine de mort spirituelle, la gêne, Matthieu 23, c'est ce que Jésus a dit. Comment échapperez-vous à la gêne ? Vous ne croyez pas en l'enfer ? Relisez Matthieu 23. Comment échapperez-vous à la gêne ? Vous qui avez rejeté et tué les prophètes, et que vous allez faire exactement pareil pour le Fils. Alors maintenant, on est tous déprimés, quoi. Mais c'est lourd, hein, vous ne trouvez pas ? C'est incroyable. Moi, ça m'impressionne tellement parce que Jésus, mes amis, il n'a pas peur d'aller droit au but. Avec beaucoup de tact. C'est bien choisi ce qu'il dit. Alors comment est-ce que nous on l'applique ? Écoutez, voici ce que je me suis dit. Je vois tout ce récit, mes amis, depuis le moment où Jésus est rentré dans le temple au verset 11, juste pour regarder, jusqu'à maintenant cette parabole. Tout ça, c'est quoi ? Quel est le but de tout ça ? Je vous dis ce que je pense. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ce que je pense. Moi, je pense que c'est un récit sur l'évangélisation. Voyez-vous, les chefs religieux réagissent au fait que Jésus s'était permis de venir dans le temple, de faire le ménage, renverser les tables. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela ? Parce que la fonction du temple avait été corrompue. C'était plus un temple pour l'adoration et l'évangélisation. Non, c'était venu un centre de commerce. Centre commercial. Jésus voulait plus que toute autre chose que ces hommes-là, ces leaders religieux, égarés. Écoutez bien ce que je vais dire. Ce qu'il voulait dans le fin fond de son cœur, c'est que ces hommes l'acceptent comme Messie et soient sauvés. Luc 9, 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Voilà ce qu'il voulait, que tous les hommes soient sauvés. Et Jésus savait que pour être sauvé, on doit reconnaître son péché et s'en repentir. Donc Jésus rentre dans le temple et voilà le péché des leaders religieux. Le temple n'était plus pour ce quoi il avait été conçu. Alors Jésus pointe le doigt à leur péché et il renverse les tables. Alors, quand tu es pointé pour ton péché, tu as deux réactions possibles. Un, oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me repens. Deux, ah, tu me déranges et je me débarrasse de toi. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Donc, il lui dit, mais par quelle autorité est-ce que tu fais ça ? Hein, au lieu d'accepter leur péché, ouais, mais t'en vois, là, ils dévient. Hein. Vous savez, ils font ça souvent, les gens, dans l'évangélisation, ils dévient. Ouais, non, mais et par quelle autorité tu fais ça ? Bon, alors, je vais vous répondre, schlac ! Par l'autorité de mon Père. Oui, vous savez, mes amis, une personne ne peut pas être sauvée à moins qu'elle reconnaisse qu'elle est pécheresse. Et que le salaire du péché, c'est la mort, qu'elle est condamnée par Dieu pour son péché. Même les gens les plus religieux que vous connaissez. Ils doivent reconnaître leur péché, comme quoi ils sont coupés d'un Dieu saint et qu'ils ont besoin d'être sauvés par le Messie. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça que Jean-Baptiste a osé confronter Hérode pour son péché d'adultère, mais c'est quand même courageux et un peu gonflé. Tu vas vers le roi et lui dire « Écoute, t'es dans l'adultère. » Ah, il faut un peu de courage pour faire ça. Et être prêt à peut-être perdre la vie. Parce que lui savait que Hérode, pour se repentir, pour être sauvé, il devait se repentir. Donc je pense que la réflexion est ici celle-ci. Lorsque je fais de l'évangélisation, d'où vient mon autorité ? Par les paroles que je prononce, comme Jésus, et par la vie que je vis, comme Jésus et Jean-Baptiste. Moi, ce que je trouve formidable ici, c'est que Dieu a fait tout ça pour vous et pour moi. Et si aujourd'hui tu es chrétien, c'est parce que Christ est mort pour toi et que quelqu'un, à un moment donné, peut-être tes parents, ou peut-être un collègue, ou peut-être quelqu'un d'autre, un jour, t'a annoncé l'évangile et t'a dit, tu sais, tu es pécheur. Et tu as besoin de te repentir et venir au Seigneur des Seigneurs, à Jésus-Christ pour être sauvé. Et mes amis, jusqu'au retour de Christ, ça continue. Nous sommes appelés à faire pareil avec nos voisins, nos collègues de travail, à l'école, avec tact. C'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Nos vies, nos paroles. Et si un jour le Seigneur vous donne cette occasion de discuter et dialoguer avec eux, à un moment donné, il va falloir leur dire qu'ils sont pécheurs. Et c'est là où ça chauffe des fois. Que le Seigneur nous donne grâce et courage. Amen. Seigneur, vraiment merci de tout cœur pour ce texte étonnant. Seigneur, pour ce texte qui élève Christ à sa juste place. Seigneur, que Jésus-Christ soit toujours à sa juste place, ici, dans nos vies, mais aussi dans cette Église. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.